Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouvel horaire pour notre grande émission de Torah, puisque maintenant on se rencontre le samedi soir à 19h pour une émission qui devient Mélève et Malka, qui est l'émission du samedi soir, et nous sommes en ligne avec Ravi Lilemel. Ravi Lilemel, bonsoir à vous et Shavua Tov.
Bonsoir et Shavua Tov.
Alors, en raison des caprices de la montre, c'est la première fois qu'on se dit Shavua Tov dans notre émission. D'habitude, on se retrouve le vendredi après-midi, mais c'est comme ça tous les ans. Chaque année, on passe évidemment d'un jour à l'autre, suivant les horaires de Shabbat. Et donc, on passe à une nouvelle paracha, c'est un nouveau texte que nous allons essayer de comprendre avec vous ce soir. C'est Vaera. Et alors là, il y a ce à quoi vous voulez réfléchir avec nous ce soir, c'est toute la relation entre Avram et son neveu dans leur parcours. Donc d'abord, déjà, Avram part avec son neveu de Ur Kasdim. On remarquera, je ne vais pas faire l'explication à votre place, que Avram part et que le neveu, lui, vient avec lui, c'est pas pareil. Puis après, il se sépare. Il y a tout le passage de Sodome et Gomorre, qui est l'un des plus grands textes de l'humanité. Tout le monde lit partout, et c'est sur ça que vous laissez de réfléchir, parce que finalement, Avram vient, l'aime, ne le suit pas, c'est très intéressant. Toutes ces parachutes de Bereshit, elles ont quelque chose de particulier dans la profondeur humaine qu'elles ont. Donc voilà, donc Avram et Lot. Alors qu'est-ce qu'on peut essayer d'en tirer comme enseignement ?
Exact, c'est vrai qu'on va trouver Lot, alors justement dans la paracha qu'on a lue ce matin, c'est-à-dire dans l'Ech Lecha, puisque le texte de l'Ech Lecha nous relate qu'en effet, Avram prend avec lui Sarai, son épouse, Lot, son neveu, et toutes leurs possessions, lorsque Dieu justement lui dit « L'Ech Lecha, va pour toi, va-t'en, et il va falloir que tu ailles ailleurs maintenant, que l'histoire va se dérouler de manière beaucoup plus vaste. » Et puis, après, on va retrouver justement, toujours dans l'Ech Lecha, cette fameuse confrontation entre les bergers de Lot et les bergers d'Avram, qui va amener Avram à dire cette phrase très connue, « Si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite », c'est-à-dire une rupture, et un Lot qui, en effet, bien, part vers cet univers de Sodome et Gomorre, justement, duquel il sera sauvé. Ça, c'est la paracha de cette semaine qui arrive, Vaïra, dans laquelle, en effet, bien, Abraham va intercéder pour que Sodome et Gomorre ne soient pas détruites. Concrètement, ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a rien qui peut justifier la préservation de ces lieux, mais néanmoins, Lot va être sauvé. Alors, la première question qui se pose, c'est au fond, Lot, qui est donc le neveu d'Abraham, le fils de son frère, Abraham part avec lui. Lot l'accompagne, ce qui est extraordinaire parce qu'au fond, Lot quitte un lieu, quitte un cadre, et donc montre bien que le message d'Abraham le concerne. Il est concerné par ce message, il le suit, et c'est là où les choses vont devenir difficiles, c'est que Abraham, au fond, tout son travail en permanence, ça a été de permettre à l'humanité de découvrir la présence de Dieu dans l'univers. Abraham est celui qui, en effet, avec sa tente qui est ouverte aux quatre coins, avec son discours, avec sa parole, eh bien, va amener toutes celles et tous ceux qu'il rencontre, avec son épouse Sarai, à repenser le rapport à la vie et savoir qu'il y a en effet un Dieu créateur. Puisque l'idée même du Dieu créateur existe, déjà bien avant Abraham, mais par contre, Abraham, c'est celui qui va la répandre. Il va la répandre, et d'ailleurs, quand on dit qu'Abraham avait au niveau du cou une pierre précieuse, et les gens, quand ils la voyaient, guérissaient, un certain nombre de commentateurs disent qu'il ne s'agissait pas de maladie physique, mais non point de maladie mentale telle qu'on le comprend aujourd'hui, mais des personnes qui étaient en effet au niveau de leur esprit complètement dans le doute, qui ne savaient pas véritablement quel sens donner à leur vie. Abraham les convainquait. Et là, brusquement, son propre neveu, Abraham décide, on ne peut plus continuer ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette forme de rupture qui se crée? Alors qu'on aurait pu imaginer un Abraham qui, au contraire, va, vis-à-vis de son neveu, tout tenter pour... Pourquoi, justement? Et c'est là où ça devient très intéressant, parce qu'on n'est pas du tout ici sur une problématique de foi dans le créateur de l'univers, pas du tout. Le texte nous dit qu'il y a une dispute entre les bergers, parce que les bergers de Lot, eh bien, laissent paître leurs moutons dans les champs qui bordent le chemin de la route qu'ils ont pris, et se disant, de toute façon, cette terre un jour appartiendra à Abraham. Abraham n'a pas d'enfant pour l'instant, donc son plus proche parent, c'est Lot, donc de facto, Lot va hériter un jour de cette terre, donc on va considérer qu'elle est déjà quelque part un petit peu à lui, donc on peut se servir. Alors le raisonnement est intéressant, mais Abraham dit non, ça c'est pas possible. Pourquoi? Et c'est là où il y a quelque chose de très bouleversant, c'est que Lot a vécu dans la proximité d'Abraham, et évidemment qu'il a adhéré à cette vision du monde, mais après il y a le rapport au vol, le rapport à l'argent. Et c'est là où brusquement les choses ne sont plus les mêmes. Le roi Salomon va dire, Shlomo HaMelech va dire dans un de ses textes, Veha kesef ya'ane et hakol. Traduction, l'argent aura réponse à tout. C'est-à-dire que c'est une zone test. Et ce qui est fou, c'est que Lot a vécu dans la proximité d'Abraham et ses bergers ont vécu dans cette proximité. Donc ils se sont imprégnés. Mais néanmoins, ils n'ont pas réussi à faire en telle sorte que cet attrait pour ce que j'appellerais aujourd'hui au fond l'argent facile, puisque c'est de ça dont il s'agit. On ne va pas, pardonnez-moi l'expression un peu légère, se prendre la tête, se fatiguer pour aller dans des endroits où ils peuvent pas être. Ça y est, c'est bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Et là, Abraham dit, il faut qu'on se sépare. Mais pourquoi se séparer? Au fond, si on réfléchit. Alors très bien, les bergers d'Abraham, eux, musellent leurs moutons, et les bergers de Lot, non. Bon, ben, d'accord, c'est les bergers de Lot. Il y a ici une leçon formidable que la Torah est en train de nous donner, c'est que l'impact que peut avoir la proximité avec des individus qui ne tiennent pas trop compte, entre autres, de tout ce qui a trait à l'univers du vol, n'ont pas un risque de nous amener à devenir nous-mêmes des voleurs, mais à amoindrir ce que représente cette chose. C'est-à-dire que lorsque vous êtes habitué au quotidien à voir un modèle de fonctionnement qui n'est pas très éthique, eh bien au bout d'un moment, on ne voit plus en quoi il est un problème éthique. Alors bien sûr, on ne le fera pas, mais on va dire « bon, ça va ». Oui, bon, c'est pas super, mais bon. Et ce qui est important au fond, c'est de préserver à l'intérieur de notre esprit une vision claire des choses. Et lorsqu'Abraham dit à Lot, c'est terminé. C'est-à-dire que Abraham ici est en train de nous apprendre à nous, ses descendants, cette leçon fondamentale. C'est que quelqu'un peut être croyant. Un des enjeux les plus compliqués dans la vie, c'est d'avoir un rapport sain à l'argent. S-A-I-N, et pourquoi pas rajouter un T, parce que l'argent, au fond, c'est le support de très belles réalisations si on le désire. Et à partir de là, être vigilant sur la fréquentation d'univers dans lesquels l'éthique n'est pas trop présente, même si à côté, nous avons des personnes qui sont croyantes, des personnes qui, en effet, adhèrent au message d'Abraham. Et ce qui va être très intéressant, c'est que eh bien, Lot va aller vers Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe est, au fond, le lieu dans lequel cette dimension-là du rapport à l'argent est aussi complètement hérétique. Là-bas, Sodome et Gomorrhe, on a l'habitude de voler, mais très peu. Hein. On va chez l'épicier, puis on prend une olive. Et comme chacun prend une olive, juste pour goûter, eh bien, au bout d'un moment, il n'y a plus vraiment d'olive, mais je n'ai pas fait grand-chose. C'est un univers dans lequel on se donne les moyens de ne pas ressentir qu'on est, au fond, à l'extérieur du système tel que Dieu le propose à l'humanité. Sodome et Gomorrhe, c'est le lieu dans lequel les pauvres n'ont pas accès, mais il y a une forme de caisse quand même. Il y a une caisse pour les pauvres, mais on veut qu'ils restent à l'extérieur de la ville, on ne veut pas se confronter à eux. Donc, d'une certaine manière, c'est un monde dans lequel on se donne les moyens de ne pas ressentir qu'à un moment, on est peut-être à côté, voire même sûrement, de l'histoire que l'on doit vivre, surtout dans cette démarche éthique. Et c'est intéressant de voir que, eh bien, dans cette paracha de Vayera qui arrive, au moment où on parle de Sodome et Gomorre, vers laquelle Lot, justement, va aller, eh bien, on nous décrit des lieux incroyables, à tel point que la Torah nous dit ici que Gan Hachem, que Sodome et Gomorre sont à l'image Gan Hachem, c'est-à-dire d'un jardin de Dieu. Dans Bereshit, au tout début, on ne nous a pas dit Gan Hachem, on ne nous a pas dit le jardin de Dieu, on a parlé du jardin d'Éden. Donc, c'est incroyable. Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin, quand elle nous parle de Sodome et Gomorre, même si c'est un lieu dans lequel eh bien, la végétation croît de belle manière, enfin, voilà, c'est une réussite économique qu'on aurait dit aujourd'hui, pourquoi Gan Hachem ? Eh bien, il y a ici quelque chose de très fort, c'est que la Torah est en train de nous apprendre que l'individu peut voir parfois, à travers sa réussite matérielle, une forme d'approbation du divin de ce qu'il fait. Et donc, au fond, Sodome et Gomorre, eh bien, c'est la société qui ne peut pas bouger parce qu'elle se dit, mais au fond, évidemment que Dieu valide, la preuve, c'est notre réussite. Et comme en effet, on s'est donné les moyens là-bas de ne pas percevoir qu'on est hors éthique, comme on l'a vu avec l'histoire de Lot, avant d'arriver à Sodome et Gomorre. Bon, mais de toute façon, un jour, ça lui reviendra, alors on peut commencer. Sodome et Gomorre, bon, oui, non, mais les pauvres, ils reçoivent aussi un petit peu. Hein. Il y a une petite caisse dans laquelle on leur donne quelques menus monnaies. Et puis, ça ne s'appelle pas du vol. Et donc, à partir de cela, eh bien, on fait en telle sorte que, dans ce rapport à l'argent, eh bien, on ne voit plus où est le problème. Et Abraham sait très bien que lorsque l'individu ne voit plus où est le problème, ou en tout cas, les choses sont amoindries à ses yeux, eh bien, à un moment, ça devient intransmissible. Or, justement, tout l'enjeu, c'est de transmettre l'importance et la valeur des choses. Un petit peu, en tout cas, quelques pistes de réflexion sur ces deux parachiotes, avec d'un côté, eh bien, comme on vient de le voir, le début de l'histoire dans l'Ech Lecha, et puis l'aboutissement de l'histoire, tel que la paracha à venir Vayera nous la propose.
Et en effet, essayer de voir un peu où est le curseur de chacun, la façon dont on sait parfois qu'on se baratine un peu quoi, par rapport à l'argent, vous disiez, ou par rapport aux autres. C'est vraiment, c'est peut-être même le combat de toute une vie, hein, pour certains, pour y arriver. En tout cas, moi, pour moi, le combat, il n'est pas fini. C'est de savoir où je me situe, comment faire le mieux. Ravili Lemel, je vous remercie et je vous souhaite une bonne et belle semaine. Shavua Tov.
Shavua Tov.
Et on retrouve à présent Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai et Shavua Tov. Et alors vous, comme c'est la première fois qu'on passe à Amel Ave Malka, vous voulez quand même dire un petit mot sur l'Ech Lecha.
Bezrat Hashem, on va parler un petit peu de cette paracha de l'Ech Lecha. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cette paracha de l'Ech Lecha ? Hashem s'adresse à Avraham Avinu, et effectivement, là, il va faire quelque chose de complètement contre-intuitif. Alors que Terach, le père d'Avraham Avinu, avait pris Avraham et toute la famille avait déjà quitté Ur Kasdim. On nous le raconte à la fin de Parashat Noach. Ils se mettent en route donc pour Eretz Kenan, la terre de Kenan, la terre d'Israël. Ils s'arrêtent à Haran en cours de route. Et là, Hachem va s'adresser à Avraham Avinu, lui dit « Lech Lecha, va-t'en pour toi. Léana Atra, c'est pour ton profit, tu vas grandir. » Mais c'est complètement contre son intuition. Il est devenu prince de Dieu à Haran. Il a des milliers d'élèves qu'il a convertis. Pourquoi est-ce qu'il devrait quitter cet endroit ? S'éloigner encore plus de son père. Alors en vérité, pour le comprendre, il faut comprendre qu'on ne nous dit pratiquement rien des 75 premières années de la vie d'Avraham Avinu. Et ce, pour une raison qui est très simple, c'est que ces 75 premières années, il les a conduites avec son intuition à lui, avec sa force de caractère à lui, avec sa force spirituelle, la sienne. Et en quelque sorte, ces années-là sont des années dans lesquelles, en fait, il se forge. Mais là, maintenant, c'est Dieu qui lui parle. Il va devoir se confronter à accomplir la volonté d'Hachem. Or, la volonté d'Hachem va être qu'une fois qu'il est arrivé en Eretz Israël, il doit repartir pour aller en Égypte. Qu'à la fin, il va devoir faire la ligature de son fils. Et donc, en quelque sorte, il va devoir faire pour gagner ses galons, si je puis dire, des choses qui relèvent du din, de la rigueur, alors que lui est l'homme du chesed, l'homme du partage, l'homme de la diffusion. Il y a donc ici un paradoxe. Mais en vérité, ce paradoxe n'est qu'apparent. Ce que la Torah nous demande, c'est d'aller contre nos intuitions, de savoir que nos intuitions sont parfois un bon repère sur le plan intellectuel, sur la manière dont nous réfléchissons, mais pas du tout sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, il faut apprendre à aller regarder l'horizon qu'Hachem a tracé. Et ça, c'est la première chose que le premier juif du monde nous enseigne dans son premier pas dans l'aventure du peuple juif. L'Echlecha, le peuple juif, la date de naissance du peuple juif, c'est le jour où Hachem a dit à Abraham Avinu, l'Echlecha, quitte ton père. Tu as quitté ta terre déjà, ça tu l'as fait, mais tu vas t'éloigner encore plus. La patrie où tu es né, tu vas t'éloigner encore plus. Alors ça, c'est fondamental parce que le peuple juif est né non pas d'une promesse, mais d'un acte de bitachon, de confiance en Dieu, de émouna, de foi en Dieu. Mais alors finalement, dans la parasha, on va aussi nous raconter qu'Avraham Avinu, à un moment donné, va suivre ses intuitions et il va se tromper. Quand Lot a été enlevé, Avraham Avinu comprend qu'il doit partir en guerre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va prendre ses élèves, ceux qui étudient la Torah. Et la Gemara dans Nedarim va nous dire qu'une des raisons de l'exil égyptien, c'est précisément ce fait-là. Le fait qu'Avraham Avinu a pris ses élèves pour aller mener une guerre. Mais ils étudiaient la Torah. Il fallait pas les déranger. Mais on est en guerre. En guerre, tout le monde doit partir, n'est-ce pas? Tout le monde doit aller se battre. On est dans une guerre de survie, dans une guerre d'indépendance. On est dans la guerre, donc tout le monde doit aller se battre. Et la Gemara, là, ce n'est pas un Rishon, c'était un sage de l'époque de Maïmonide qui commente les raisons profondes de l'exil égyptien. C'est la Gemara, ce sont les sages de la Gemara, dans les Darim, page 32, qui viennent dire une des raisons de l'exil. L'exil, c'est d'abord l'exil du discernement, de l'intelligence, du lien avec Hachem. C'est tout ça qui part en exil. Et à la fin, on devient plus matérialiste, plus politique, plus géopolitique, si je puis dire. On réfléchit moins avec les données qui sont celles de la Torah, plus avec celles des données de la géopolitique. D'accord ? C'est déjà la première exil, c'est l'exil du date, et après un exil physique, évidemment. Une des raisons pour lesquelles on est parti en exil en Égypte, pour apprendre la confiance en Hachem, apprendre la relation avec Hachem, ça a été parce qu'Avraham Avinu, à la fondation du peuple juif, va prendre des gens qui étudient la Torah et les emmener faire la guerre. Ce qui relève de la logique pure et simple, mais ce qui ne relève pas de la logique de la Torah, qui est d'aller contre ses intuitions, en l'occurrence politique ou géopolitique. Nous brûlons l'actualité, n'est-ce pas? On est en guerre. Tout le monde doit se mobiliser. Tout le monde doit y aller dans cette guerre. Et on vient de dire non, pas du tout. Bien qu'il s'agissait d'un cas de piquar nefesh, de danger de mort, nos sages ont émis quelques réserves sur sa conduite. D'accord? Un individu seul qui étudie la Torah et à plus forte raison un groupe de personnes qui sont réunies pour étudier ensemble, ils ont un impact qui va au-delà de notre compréhension. Interrompre une yeshiva tout entière, au milieu de son étude, ça provoque une perte spirituelle dont la responsabilité ne peut pas être prise à la légère, nous dit le Midrash raconte. Et ça aussi, ça défie nos intuitions. On est en guerre. Bien sûr que tout le monde doit se mobiliser pour partir en guerre, doit prendre son fusil et aller se battre. Alors que le peuple juif n'existe pas encore, on est encore ici dans les prémices, dans les limbes de la naissance du peuple juif. La condition sine qua non, c'est que le peuple juif comprenne une chose qui est totalement contre-intuitive. En période de guerre, on n'embête pas ceux qui étudient la Torah. On les laisse à la yeshiva, on les laisse au kollel, parce que ces gens-là constituent un parapluie spirituel. Depuis l'aube de l'histoire du peuple juif, alors même qu'il n'existe pas, c'est un individu, c'est Avraham Avinu, qui est à l'origine du peuple juif. La Torah vient nous rappeler que cette attitude qui consiste à se plier à ses intuitions, on dirait en l'occurrence politique et stratégique, fait qu'on perd le sens de la réalité spirituelle dans laquelle on vit, c'est-à-dire une spiritualité qui ne se laisse pas enfermer dans le politique, et donc, en perdant ça, on part en exil. On fabrique les conditions de l'exil. Sachez que l'exil, c'est d'abord l'exil du date, c'est l'exil de l'intelligence, du discernement. Et on nous demande d'abord, dans un premier temps, de comprendre que les lois qui régissent l'histoire du peuple juif ne sont pas les lois des nations du monde. En période de guerre, ceux qui étudient la Torah ne doivent pas sortir. Ils doivent rester à la yeshiva, ils doivent étudier, plus, mieux, se renforcer, mais ils doivent rester là-bas. Pourquoi? Parce que c'est l'impact qu'ils ont qui défie complètement nos intuitions. Et effectivement, c'est tout à fait logique, ça défie nos intuitions politiques, nos intuitions militaires, nos intuitions géostratégiques. Et pourtant, c'est ça la stature du peuple juif. C'est ça qu'il faut comprendre ici, et ça aussi c'est contre-intuitif, et c'est une des premières choses qu'Abraham va nous enseigner. C'est que le peuple juif n'est pas une réalité politique, c'est une réalité spirituelle qui est née d'abord dans un acte de foi, de émouna et de bitachon et de confiance à Hachem, suivi quelques centaines d'années plus tard d'un acte d'adhésion au projet qu'Hachem va nous donner qui s'appelle la Torah. Et dans ce projet-là, il a toujours été indiqué qu'il y avait une partie du peuple qui devait étudier la Torah, même et surtout en temps de guerre. Et vous le voyez, ça va complètement contre nos intuitions. Ben finalement, c'est ça que la Torah nous demande. C'est ça qu'Abraham nous enseigne dans cette paracha. C'est que pour comprendre ce qu'est le peuple juif, il faut regarder nos intuitions et essayer de comprendre que ce qu'on nous demande va très souvent, et en fait dans la quasi-totalité des cas, au-delà, à l'inverse de nos intuitions. Et c'est une donnée qui est tout à fait fondamentale. Elle est d'une actualité brûlante. Et elle nous permet de comprendre le mystère du destin du peuple juif, qui n'obéit à aucune loi politique. Mais il ne faut pas se contenter de le dire aux antisémites. Il faut qu'on soit capable de se le dire à nous-mêmes et d'en tirer les conséquences. Au lieu de poursuivre ceux qui étudient la Torah et les insulter à longueur de journée, alors qu'ils constituent le parapluie spirituel du peuple juif, parce qu'ils expriment précisément la spécificité du peuple juif, qui est de n'obéir à aucune loi politique ou géostratégique. Donc ça ne sert à rien de le répéter aux antisémites, alors que de l'autre côté, on va insulter ceux qui étudient la Torah ici en Eretz Israël. Ça relève du scandale. Ça relève de l'entourloupe. Assumons jusqu'au bout notre spécificité. Le peuple juif, c'est ce que nous disons antisémites, n'obéit pas aux lois politiques et géostratégiques. Il faut qu'on soit capable de se le dire à nous-mêmes et qu'on soit capable d'en tirer les conséquences et qu'on foute la paix à ceux qui étudient la Torah et qu'on arrête de les poursuivre et de les insulter à longueur de journée. Et ainsi, le peuple juif aura sa vraie place aux yeux des nations, mais avant toute chose, à nos propres yeux.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gueh. Bonsoir Rav Gueh.
Bonsoir.
Shavua Tov.
Shavua Tov.
Rav Gueh, alors vous voulez intervenir vous sur la nature d'Avraham ? Parce que c'est vrai qu'il est à cheval sur nos deux parachutes, Lech Lecha, Vaera, et que c'est l'un des enjeux un peu de toute l'étude des érudits sur Avraham, parce qu'il a eu des épreuves, 10, tout le monde n'est pas d'accord sur le nombre, mais on dit qu'il s'est... Il a vraiment fait qu'il se fasse mal sur certaines de ses épreuves parce que c'était contre sa nature. Alors, quelle est la nature réelle d'Abraham ?
Voilà, donc d'abord, il faut prendre un premier élément. La Torah a un côté très pédagogique puisqu'elle veut parler de la nature humaine. Elle le fait à travers des personnages qui incarnent certaines midot, certains traits de caractère, certaines valeurs. Donc Abraham, quel est son trait de caractère dont tout le monde parle, plus connu ? C'est évidemment le chesed, la générosité. On sait tous qu'Abraham reçoit les invités, mais que ce n'est que, on va dire une photo, mais c'est tout le temps. Simplement, dans la paracha de Vayera, par exemple, il est malade, il fait très chaud, il aurait pu tout simplement se reposer. C'est un repos tout à fait légitime. Lorsqu'on fait une opération pareille, lorsqu'on est centenaire, ben, c'est tout à fait légitime de se reposer. Mais là, il ne peut pas. Et c'est plus fort que lui. Il est triste de ne pas recevoir des invités. Donc, on a ici quelqu'un qui non seulement répond à des demandes, mais il va les chercher. Il va poursuivre pour chasser en fait les options, les possibilités. Il va essayer de se mettre dans des situations de données perpétuellement. Alors aujourd'hui, je ne voudrais pas m'approfondir sur ce trait de caractère, mais surtout pour expliquer de façon générale qu'en fait, lorsqu'on parle des grands héros d'Israël, ils ont chacun une qualité principale. Et comme je l'ai déjà expliqué sur cette antenne il y a longtemps, le Rav Yerucham Levovitch de la Yeshiva de Mir, il est décédé en 1936, il disait qu'en fait chaque être humain naît avec une qualité qui lui est propre, une qualité dans laquelle il excelle. Donc Abraham est né naturellement avec cette qualité qui est la générosité. Sauf que à ce moment-là, on se pose la question de savoir, mais alors quel mérite il a, puisque c'est sa nature. Alors, deux choses. La première, c'est qu'il l'a poussé à l'extrême, c'est qu'il est né avec, mais il a vraiment allé jusqu'au bout de ce qu'un être humain est capable de faire, et ça, il ne l'avait pas naturellement. Naturellement, il avait une accointance, une propension à être généreux, mais il est allé vraiment jusqu'au bout. Mais surtout, Dieu a fait en sorte que toute sa vie, il soit justement mis à l'épreuve. Et que cette qualité-là aurait pu, il aurait pu soit l'entacher, soit la salir, soit la réduire, parce que Hachem lui a demandé des choses difficiles. Il lui a demandé d'abord de chasser Ishmael. Il lui a demandé de faire la guerre contre les quatre rois, puisqu'il est allé récupérer Lot, son neveu, qui avait été capturé par ces quatre rois. Donc il a dû tuer. Il a dû prendre son fils Yitzhak, le ligoter et pratiquement l'égorger. Il ne l'a pas fait, mais c'était in extremis. Bref, à de nombreuses reprises, Abraham est mis justement dans une très grande épreuve, c'est d'aller à l'encontre de sa mida, de son trait de caractère dans lequel il excelle, et qui est sa mission sur Terre, sans aucun doute. La mission d'Abraham sur Terre, c'était justement de recevoir, d'accueillir tout le monde, et de les faire avancer, de les accueillir pour, dans le but de les rendre croyants, de leur enseigner le monothéisme. Et ça, Abraham l'a fait d'une façon parfaite. Mais Dieu veut que l'homme soit effectivement mis à l'épreuve, mais mis à l'épreuve justement sur les choses où il excelle. C'est-à-dire, en fait, le Rav Yerucham, ce qu'il ajoute, il dit que l'homme, s'il arrive à préserver la qualité particulière qui le caractérise, s'il arrive simplement à la préserver, et chez Abraham, pas seulement la préserver, mais aller jusqu'au bout de ses potentialités dans ce domaine, eh bien, il a réussi sa vie. Mais ça sera difficile, parce que Dieu va mettre des embûches, des obstacles. Chez Abraham, il y en a 10, il y en a même plus que 10, parce que au quotidien, c'est pas facile de renvoyer son fils Ishmaël, par exemple, et de ne plus le revoir pendant longtemps. On sait qu'il allait lui rendre visite tous les 3 ans. C'est comme ça que le Midrash le dit, il allait lui rendre visite. Mais sa femme lui avait dit de ne pas descendre du chameau, donc il pouvait juste prendre ses nouvelles sans pouvoir l'embrasser, sans pouvoir recréer le contact avec lui. Donc des épreuves difficiles, le renvoyer lorsqu'il est souffrant, son fils Ishmael, lorsqu'il l'en renvoie, Hagar, il l'a renvoyé également, alors que c'était devenu son épouse, puisque Sarai, qui est devenue après Sarah lui a demandé de se marier avec Hagar. Donc vraiment, de nombreuses épreuves sur ce domaine, le domaine de la générosité, où a priori, il fait des choses qui sont contraires à sa nature. Mais il le fait parce qu'il n'a pas le choix, parce que c'est un devoir divin, mais c'est aussi une façon de montrer que malgré le fait qu'il va devoir être a priori assez cruel, entre guillemets, il le fait uniquement parce que c'est absolument nécessaire, et ça ne va pas entacher, salir, réduire sa propension à être généreux. Et il va aller jusqu'au bout de cette générosité, et cette générosité va toucher le monde entier, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'Abraham, il est seul face à un monde qui suit Nimrod le chef des rebelles contre Dieu. Abraham professe exactement le contraire de Nimrod, il est seul, il n'a pas de moyens, il va finir par convaincre des dizaines de milliers de personnes, dit le Maïmonide, des dizaines de milliers de personnes vont le suivre et vont être impressionnés. Il va même être sacré roi du monde à un certain moment dans la paracha de Lech Lecha. Emek Hachave, Emek Amelech, dit le verset. C'est le lieu où les peuples du monde se sont réunis et ils en ont fait un roi. Donc il a été reconnu. Tout ça après un travail acharné, au péril de sa vie, sans jamais, jamais dévier de sa voie du monothéisme. C'est vraiment un parcours incroyable, inimaginable. qu'on appelle dans la Gemara, dans Hagiga, le nadiv. On appelle Avraham le donateur, le nadiv, parce qu'il s'est donné totalement. Il a donné sa vie, il a donné toute son énergie. Tout cela, il l'a fait de son plein gré. Son père et sa mère ne lui ont jamais inculqué ça. Son entourage lui disait plutôt le contraire. Et lui, il est allé jusqu'au bout de ses convictions, avec pour seul maître, disent nos sages, ses reins. C'est-à-dire s'il a trouvé en lui-même les ressources, les forces pour enseigner toutes ces valeurs. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Et en appliquant ce chesed, il se rapproche de son créateur qui lui aussi a créé le monde, Dieu a créé le monde, justement pour révéler au monde cette mida, ce trait de caractère qui est le chesed, la générosité. Et en cela, donc, il est à l'image de son créateur. Et il explique au monde que toute la raison pour laquelle nous sommes créés, c'est par un acte de générosité où Hachem, Dieu, veut absolument que l'homme ait le maximum, le top. Pour avoir le top, disent nos sages dans le Zohar HaKadosh, eh bien, c'est nous éviter d'avoir le pain de la honte, c'est-à-dire de recevoir dans le monde futur une récompense qui ne serait pas méritée. Donc Dieu nous a mis sur terre avec plein d'épreuves, des choix multiples. Et lorsqu'on arrive à faire les bons choix et que l'on reçoit notre juste récompense, à ce moment-là, nous avons le salaire, qui est en fait un salaire mérité, et donc nous évitons le pain de la honte, et de ce point de vue-là, Dieu nous donne ce qu'il y a de meilleur. Donc la raison d'être de notre existence, c'est la générosité de Dieu qui veut nous donner, après ce monde un peu difficile, un monde d'épreuves, un monde de doutes, eh bien, ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire la récompense, dans laquelle on est vraiment conscient qu'on l'a bien mérité grâce à ses efforts constants. Donc, la générosité de Dieu, son serviteur fidèle Abraham qui suit son exemple, et Abraham qui le fait alors qu'il a de nombreux obstacles sur sa route, et il reste notre véritablement père, c'est le père de nos pères, c'est-à-dire le Avarishon, le socle sur lequel tout le judaïsme est construit. Et donc nous aussi aujourd'hui, tout quotidiennement, nous devons nous poser la question, si nous sommes les dignes descendants d'Abraham, en ayant toujours cette générosité, je pense qu'on peut dire que le peuple juif, de façon générale, est d'une grande générosité, puisque en n'étant pas si nombreux que ça, des sommes incroyables sont distribuées et données. On est en plus dans la campagne de la Tzedaka en ce moment, mais c'est tout le temps le moment de la Tzedaka, parce qu'on est tout le temps sollicité, parce qu'on est tout le temps dans la générosité, et des sommes incroyables sont données par nos frères pour aider nos frères dans le monde entier, en particulier en Israël, et qui ont tant besoin de nous. Donc bravo à tous d'être les dignes descendants d'Abraham et de continuer à faire ces actions, des actions qui nous honorent et qui montrent combien nous sommes des fidèles serviteurs de Dieu qui lui aussi nous a montré l'exemple.
Rav Guy, l'expression du Zohar, c'est le pain, l'echem, le pain de la honte.
Narama de Kisoufa, les mots exacts. Narama de Kisoufa, c'est le pain, donc c'est en araméen.
En araméen, ouais.
Le pain de la honte, c'est-à-dire un pain qui est gagné, qui est simplement comme un pauvre qui tape à la porte et qui est véritablement à honte de demander, de recevoir et d'être assisté.
Là, on est assis à table et de plein droit, on s'est dit, bah, je l'ai bien mérité. Ben oui, on connaît ça dans nos vies. D'ailleurs, dans nos vies, pour moi, l'épreuve, ce n'est pas forcément celle dont on parle le plus. On en parle beaucoup, mais ce n'est pas la première. C'est Dieu lui dit, quitte tout, va en Israël, ce sera merveilleux pour toi. Il y va, il arrive, il y a la famine. Pour moi, ça c'est correspond tellement à des choses qu'on a tous vécues à des petits niveaux. Mais on a tellement vécu des choses comme ça. Il s'installe, il quitte tout, il arrive et il y a la famine, il faut qu'il parte en Égypte.
Effectivement, c'est une des premières épreuves où Dieu lui a demandé de quitter ses parents, ce qui n'est pas évident, vers l'inconnu, une terre qu'il ne connaît pas, et puis finalement sur cette terre, il est obligé de quitter cette terre parce qu'il n'y a pas d'argent, pas de quoi se nourrir, et il ne dit rien, il accepte le décret divin, et ainsi il prépare pour ses descendants leur arrivée en Égypte, puisqu'il va préparer tout ce qu'il faut spirituellement parlant, ce qu'on appelle Maase Avot Siman Avanim, pour que le passage en Égypte se fasse dans les moins pires conditions, on va dire comme ça.
Rav Guy, je vous remercie, et de nouveau, je vous souhaite Shavua Tov.
Shavua Tov.
Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmari, shalom shokat shoy bay.